VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes au Sahel. Le président français Emmanuel Macron est attendu ce vendredi en fin de journée au Niger pour réveillonner avant l'heure avec des centaines de soldats français déployés dans la région pour se battre contre les groupes djihadistes. Après ses précédents voyages cette année au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, cette courte visite d'une vingtaine d'heures à Niamey témoigne de la priorité que le président Macron donne à la stabilisation de l'Afrique de l'Ouest. J'y suis très présent parce qu'on ne peut pas lutter efficacement contre le terrorisme si on n'a pas une action au Sahel, avait souligné le chef de l'État français dimanche dernier. Après son accueil en fin d'après-midi par le président nigérien Mahamadou Issoufou, Emmanuel Macron se rendra directement à l'aéroport de Niamey où est implantée une vaste base aérienne de l'armée française. Avec 500 hommes, des avions de chasse Mirage 2000, des appareils de transport et des drones, cette base est le cœur de Barkhane, la plus importante opération militaire extérieure menée actuellement par la France. Une opération qui couvre 5 pays, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et Mauritanie. Le président Macron effectue sa visite en compagnie de la ministre française des Armées, Florence Parly. En Côte d'Ivoire, la défense de l'ex-ministre Hubert Houlaye, qui comparaît pour complicité d'assassinat de 7 soldats de l'ONU et de 8 civils en 2012 devant la cour d'assises d'Abidjan, a estimé que toute l'accusation n'était qu'une pure fabrication de la DST, les services secrets ivoiriens. C'est ce qu'a soutenu au troisième jour du jugement maître Rodrigue Dadjé, réitérant qu'il s'agit d'un procès politique. Interrogé par l'avocat général, l'unique témoin présent sur les 5 cités, Serge Brou, militaire de 44 ans, en détention préventive dans une autre affaire, a nié à la barre avoir incriminé M. Houlaye dans ses déclarations à la police. Conflit au Soudan du Sud, un nouveau cessez-le-feu a été signé entre le gouvernement sud-soudanais et les principaux groupes rebelles pour tenter de mettre un terme à la guerre civile qui ravage le pays depuis 4 ans. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Le texte officiel du cessez-le-feu a été signé lors d'une cérémonie au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, après 4 jours de négociations. C'est à minuit et 1 minute, le 24 décembre, que toutes les parties doivent cesser toute action militaire et opération hostile. L'accord prévoit entre autres que les belligérants gèlent immédiatement leur position, et ce pour garantir la protection des civils et l'accès de l'aide humanitaire. Le texte a été signé par le gouvernement du président Salva Kiir, par le principal mouvement d'opposition de l'ancien vice-président Riek Machar et par 6 autres groupes armés. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, s'est voulu optimiste. C'est un premier pas encourageant, vous redonnez une lueur d'espoir à votre peuple, a-t-il déclaré. Depuis le début de la guerre civile en décembre 2013, les cessez-le-feu au Soudan du Sud n'ont jamais été respectés.
Au Congo-Brazzaville, les populations autochtones, les pygmées, ne sont pas souvent consultées lorsqu'il s'agit de développer des projets dans leur terroir. Ces populations se disent lésées et demandent que les autorités tiennent compte de leur libre consentement. De Brazzaville, le reportage de notre correspondant Ngoulangoul Ngousso.
Ces populations riveraines de forêt ne sont pas consultées par les pouvoirs publics ou les entreprises privées qui viennent exploiter le bois ou la mine dans leur terroir. Leur statut de population autochtone suffit pour que leur avis ne soit pas sollicité. Le pasteur Richard Bokodi de l'association Baaka de la Likwala dénonce le fait que leur forêt saquée ne soit pas respectée.
Mais tu sais que le problème de riz et le sel est vraiment, ça nous concerne pas parce que les gens viennent seulement pour nous embrouiller, faire des choses n'importe quoi parce que nous les autochtones, malgré que nous sommes discriminés par rapport à ça, on nous prend pas en considération, vraiment c'est pas normal. Si on nous consulte pas, vraiment il y a des choses des ancêtres qui sont là-bas dans la forêt. Il faudra faire du travail au niveau de la forêt parce que nous sommes des spécialistes de la forêt.
La même plainte est ressentie par Guy Serge Ngoma, autochtone du Niari.
La personne ne peut plus être esclave sans l'accord, sans les consultations. Venir lui prendre au collet, non, quel que soit le problème, soit qu'à la justice. Donner d'abord la convocation. La convocation, c'est quoi? C'est les consultations. On vient te donner la convocation et puis tu te présentes si tu connais le problème ou pas.
Le coordonnateur du réseau national des populations autochtones du Congo, RENAPAC, Jean Ganga, estime que l'air, du sel et du savon comme seul langage pour accéder à leur forêt ou leur patrimoine culturel est désormais révolu.
Consulter, ce n'est pas leur amener du savon ou du sel et tout. Non, les consulter, c'est d'abord leur aller dire, voilà, nous voulons faire ceci. Qu'est-ce que vous en pensez?
Dans certaines régions du Congo, les choses bougent. Les acteurs de la société civile tels que Moïse Lantung de la Sanga et Joseph Ngomandolo de la Likoumou le reconnaissent.
Il y a une évolution au niveau de la Sanga quand même. Nous avons des sociétés un peu plus responsables en dehors de la CEFID et ceux qui sont dans des zones non aménagées. Mais des sociétés comme IFO, CIB, il y a plus ou moins l'implication des communautés autochtones dans la prise de décision.
Oui, dans la Likoumou aujourd'hui, il y a un grand effort que les gens font pour les associer à tous les règlements des problèmes. Aujourd'hui, personne ne peut décider en lieu et place des populations autochtones.
Les populations autochtones représentent 10% des 4 millions des Congolais de Brazzaville. Mais leur place dans le développement du pays tarde à être précisée. Elles sont souvent considérées comme des sous-hommes. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique en direct de Washington.
Revers diplomatique des États-Unis hier à l'Assemblée générale de l'ONU. Une large majorité des pays participant au vote a condamné la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Washington. Mais ce vote n'est pas contraignant. Abdourahman Dia.
Sur les 193 pays membres des Nations Unies, 128 ont voté en faveur d'une résolution non contraignante condamnant la décision annoncée le 6 décembre dernier par Donald Trump. Parmi eux, de nombreux alliés de Washington, dont Paris et une majorité de pays musulmans. 9 pays, dont les États-Unis, Israël, le Guatemala et le Togo, ont voté contre ce texte introduit par l'Égypte. 35 États, dont le Canada, le Mexique, l'Argentine, la Pologne ou la Hongrie, se sont abstenus et 21 n'ont pas pris part au scrutin. L'administration américaine a fait savoir qu'elle ne changerait pas d'avis. Les États-Unis se souviendront de cette journée qui les a vus cloués au pilori pour avoir exercé notre droit de pays souverain, a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. Nous nous en souviendrons quand on nous demandera encore une fois de verser la plus importante contribution financière à l'ONU, a-t-elle lancé, menaçant de mieux dépenser à l'avenir l'argent des Américains.
États-Unis toujours, le Congrès américain à majorité républicaine a adopté jeudi des financements temporaires pour l'État fédéral, repoussant au 19 janvier la prochaine date butoir budgétaire et évitant ainsi toute paralysie des administrations. À Cuba, le président Raúl Castro cédera son fauteuil présidentiel en avril 2018. C'est ce qu'a annoncé l'Assemblée nationale cubaine qui a reporté l'élection de son successeur, censé tourner la page de 6 décennies au pouvoir des frères Castro. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'élection par l'Assemblée nationale du Conseil d'État, lui-même chargé d'élire le président, a été fixée au 19 avril. Cette date est célébrée comme le jour de la mise en échec de l'invasion d'anticastristes soutenue par Washington en 1961. La prolongation du mandat de l'actuelle législature, qui devait prendre fin en février 2018, fait suite à l'ajournement des élections locales. Cette première étape des élections générales a été reportée après le passage en septembre de l'ouragan Irma qui a fait 10 morts et des dégâts évalués à plus de 13 milliards de dollars. Président du Conseil d'État depuis 2008, après un intérim de 2 ans, Raúl Castro, 86 ans, a affirmé qu'il céderait sa place à un dirigeant de la nouvelle génération. Son premier vice-président, Miguel Díaz-Canel, 57 ans, est pressenti pour lui succéder s'il est confirmé par le Parti communiste cubain en mars 2018. Raúl Castro restera toutefois à la tête du parti jusqu'au prochain congrès prévu pour 2021.
Et pour terminer, en Afghanistan, au moins 6 policiers ont été tués ce vendredi par un kamikaze qui a fait exploser un véhicule militaire dans un commissariat de la province de Kandahar, dans le sud du pays. Les talibans ont revendiqué l'attaque qui a eu lieu dans le district de Maïwand très tôt ce matin. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.